Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Histoire au quotidien. Nous sommes toujours dans la Gallo-Romanité, nous étudions toujours la Gallo-Romanité et pour cette dernière émission, nous allons voir la religion et la romanisation. Une religion est un élément civilisationnel important et donc il est nécessaire de voir comment se comporte, évolue la spiritualité des Gaulois au cours justement de la période de la romanisation. Une religion s'exerce toujours dans le cadre d'un compute sacré, et celui des Celtes nous a laissé de nombreuses traces, comme l'orientation des sanctuaires, par exemple le sanctuaire de Coran en Auvergne montre clairement que l'orientation de ce dit sanctuaire est calculée sur la course du soleil. Lors de la fête de Beltaine, le soleil se lève exactement dans l'axe du porche du sanctuaire. Les sources écrites nous renseignent également sur l'existence d'un tel calendrier. Le sixième jour de la lune, jour qui est le commencement de leur mois, de leur année et de leur siècle, qui dure 30 ans. Cette phrase nous vient de Pline l'Ancien dans son ouvrage Histoire naturelle. César lui aussi témoigne de cette particularité dans son livre 6 de la guerre des Gaules. Les Gaulois mesurent le temps non par le nombre de jours, mais par celui des nuits. Ils calculent les jours de naissance, le commencement des mois et celui des années, de manière que le jour suive la nuit dans leur calcul et non pas l'inverse. Ces témoignages écrits sont confirmés par la découverte d'un exemplaire de calendrier de l'époque tardive et incomplet, celui de Coligny dans l'Ain. Il est daté de la période gallo-romaine, justement, et il confirme des témoignages plus anciens comme celui de Pline et de César. Ce calendrier, véritable découverte de premier plan, a été, comme beaucoup, trouvé fortuitement dans un champ, hors de tout contexte. Le calendrier de Coligny est considéré comme l'un des plus longs documents connus, écrits en alphabet latin, mais en langue gauloise. Nous touchons là bien la romanisation. Il y a environ 2000 mots qui sont disposés sur 16 colonnes, dont la moitié a été à peu près conservée. Il s'agit d'un calendrier qui s'étend sur 5 années, de type lunaire, avec intercalation, c'est-à-dire des mois ajoutés pour qu'en fait, l'année s'écoule bien sur 365 jours. Ce qu'il apparaît, c'est que les mois sont divisés en 2 quinzaines et, en dépit de nombreuses lacunes, on connaît le nom de ces 12 mois, comme Gammon, Ekos, Samon, Okron, ainsi que les jours. Or, ces jours n'ont pas de nom. Chacun est simplement précédé d'un trou qui recevait une cheville, tout comme le calendrier romain. On sait que les mois pouvaient être mat, bon, faste, ou anmat, mauvais ou néfaste. On suppose que ce calendrier était placé à l'origine dans un temple. La forme des lettres date le calendrier du 1er siècle, en plein dans la romanisation. Un usage religieux expliquerait la permanence de ce calendrier, fondé sur un système de comptage du temps très ancien et abandonné à l'époque romaine depuis l'adoption du calendrier julien au milieu du 1er siècle avant, calendrier solaire. Cela montre en creux la croyance et la foi des Gaulois et que cette foi s'exprime comme toutes les spiritualités connues en suivant un rythme annuel qui lui est propre. Mais surtout, que plus d'un siècle après l'adoption par Rome du calendrier julien, le compute lunaire des Celtes était encore vivace. Sans oublier les 4 fêtes principales celtiques gauloises qui sont bien indiquées sur le calendrier de Coligny, Samonios, Imbolc, Beltaine et Lugnasad. Les Romains, quant à eux, ne cherchèrent pas à éliminer les dieux celtes. Non, ça n'aurait pas de sens pour des polythéistes. Mais très souvent, ils ont essayé de les romaniser, comme Jules César. Il chercha à plusieurs reprises, soit parce qu'il ne le comprenait pas, soit parce qu'il voulait être compris par les lecteurs romains, à trouver des correspondances entre les dieux celtes et les dieux romains. Et par là, d'ailleurs, justement, peut-être aussi au contact des Grecs, on a observé une modification de la vision qu'avaient les Celtes des dieux. Jusqu'à la fréquentation des Romains, les dieux celtes n'avaient pas de, on va dire, forme anthropomorphique. C'est au contact des Romains et des Grecs que finalement, les Celtes vont donner des visages humains à des dieux qui n'en avaient pas jusque-là. Un autre exemple de fusion-cohabitation est bien sûr, pour nous, le sanctuaire de la fontaine à Nîmes. À l'emplacement de la source originelle préhistorique puis proto-historique sur laquelle la ville a été fondée et où les Celtes célébraient un culte aux dieux Nemos, Namas ou Nem, eh bien, a été constitué pendant justement le fameux programme urbanistique dirigé par Agrippa à la fin du 1er siècle, un hôtel dédié au culte d'Auguste, l'Augusteum. Au fur et à mesure, c'est un véritable sanctuaire dédié au culte impérial qui fut mis en place autour de la fontaine. Ce comportement des Romains est loin d'être une exception. En tant que polythéistes, ils n'ont aucune raison de faire la chasse aux dieux étrangers. Ils s'en prirent simplement aux druides parce qu'ils représentaient un danger pour eux. C'est là-dessus que nous allons conclure notre thématique sur la gallo-romanité. Vous l'avez compris, être gallo-romain, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un phénomène uniforme ni linéaire chronologiquement. Le processus de romanisation a été perçu avec plus ou moins de profondeur selon les régions. Un processus qui s'est fait selon la capacité d'acceptation des populations à une nouvelle culture, et aussi selon ses intérêts. Mais il y a un fait incontestable et incontesté. Notre langue est une langue latine et non pas celtique. Les linguistes estiment que seulement un millier de mots de notre langue sont d'origine gauloise, parmi lesquels ambassade, ardoise, boucherie, cheval, charrue, crème, dune. Cela montre bien finalement la réussite de la romanisation chez les Celtes.